Vous pardonnez un peu le retard de ma part. Et donc, je suis heureux de vous trouver ici pour cette conférence sur le sujet « Les prophéties extraordinaires de la Bible ». Et extraordinaires, elles le sont, nous allons voir plusieurs éléments tout à fait étonnants, des éléments proches de nous, des éléments loin dans le passé, mais chaque fois reliés à une prophétie de la Bible. Il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines de prophéties dans la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Jésus a prophétisé aussi un certain nombre de choses. Et la prophétie est un art extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que si vous vous trompez, vous êtes qualifié de faux prophète. C'est ce que dit le livre du Deutéronome. Lorsqu'il parle avec Moïse, le Seigneur dit « Si quelqu'un dit quelque chose et que cela ne s'accomplit pas, ce sera un faux prophète et il faudra l'enlever du peuple. » On souriait l'autre jour en entendant parler de la prédiction d'Élisabeth Tessier, donc cette astrologue française, ex-astrologue du président François Mitterrand, qui a pignon sur rue, qui est assez connue en France, et qui, en décembre 2010, avait écrit sur le thème astral de Dominique Strauss-Kahn « L'année 2011 sera pour vous une année magnifique ». Et on ne pouvait pas faire aussi loin que ça. Ce n'est pas du tout une année magnifique pour lui. Beaucoup ont essayé de faire des prophéties. Nostradamus est un des plus connus en France. Et on peut tenter de faire des prophéties en étant plus ou moins flou et en prenant la loi des probabilités. Il y a une chance sur deux ou sur cinq que ça s'accomplisse. Donc si je le dis, j'ai une chance sur deux de réussir ou de me tromper. Et quand je me trompe, on n'en parle pas. Et quand je réussis, je le mets dans les journaux, je le mets partout. Regardez, je l'avais annoncé. La Bible est beaucoup plus discrète. Elle ne cherche pas à faire du sensationnalisme, encore une fois. Même si mon titre est sensationnel, les prophéties extraordinaires, j'aimerais dire que les prophéties de la Bible sont discrètes, mais étonnantes à bien des égards. Une prophétie dans la Bible, c'est un message inspiré à un homme par Dieu. C'est ça une prophétie. C'est quelque chose que Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, inspire à un prophète. Ce prophète doit être un homme de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui a une vie sainte, une vie pure, pas parfaite, il n'y a pas d'homme parfait, mais une vie pure et des paroles qui correspondent à la parole de Dieu. Prophétiser, c'est aussi proclamer la parole de Dieu dans la Bible, c'est-à-dire le message de Dieu aux hommes. Il y a plusieurs prophéties dans l'Ancienne Alliance où les prophètes s'adressent à Israël pour les avertir et pour dénoncer leurs péchés. Une prophétie, donc, dénonciation du péché. La prophétie est aussi là pour exhorter, consoler le peuple de Dieu. Et puis, c'est cela qui va nous intéresser cet après-midi. Une prophétie, c'est aussi une prédiction proche ou lointaine des événements futurs. Donc la prophétie, ce n'est pas seulement de la prédiction. C'est aussi de la proclamation d'un message inspiré de Dieu. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux prédictions. Veuillez pardonner le manque de luminosité. Nous avons un problème de câble. On ne peut pas faire mieux que ça. D'habitude, on a quelque chose de plus lumineux, mais je pense que ça, c'est quand même suffisant. Les prédictions bibliques ont ceci de particulier qu'il doit y avoir un intervalle de temps assez grand entre la prophétie et l'accomplissement. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'années, il n'y a pas un nombre d'années précis, mais parfois c'est plusieurs siècles, notamment sur la venue du Messie. Ésaïe, par exemple, a écrit 700 ans avant la naissance de Jésus. Et il fait des prophéties très précises que Jésus a accomplies 700 ans plus tard. Donc vous voyez, ce n'est pas des histoires de 3-4 ans, c'est des histoires de siècles. Les circonstances doivent être imprévisibles, c'est-à-dire on ne peut pas se dire, bon, par exemple, aujourd'hui, vous faites une prédiction sur le cours du pétrole. Vous dites, je vous prophétise ici même que le cours du pétrole va augmenter. On voit bien avec les événements que le pétrole augmente, même si de temps en temps il descend, dans l'ensemble, la vue générale, c'est qu'il monte. Non, les prophéties bibliques, il faut que ce soit des choses tout à fait inattendues. Il faut qu'il y ait des précisions et des détails nombreux dans les prophéties bibliques. Faire une prédiction très générale, je prédis que l'Europe va perdre son influence. Alors après, on peut l'interpréter comme on veut, perdre son influence. Élisabeth Tessier, vis-à-vis de sa prédiction, elle a dû répondre à des personnes qui lui ont dit « Madame, on ne peut pas se tromper autant que vous l'avez fait ». Elle dit « Écoutez, je ne me suis pas tout à fait trompée parce que effectivement dans le thème astral, il y avait des éléments intéressants, mais je n'ai pas voulu les relever ». Enfin bon, voilà, on peut toujours s'en sortir si on ne veut pas reconnaître qu'on n'a pas de don de prédiction. Mais dans la Bible, il y a des détails très petits, très inattendus, d'ailleurs même saugrenus parfois. Il faut que l'accomplissement de la prophétie soit en dehors du pouvoir humain. Si, par exemple, je dis « Demain, il y aura une tentative d'assassinat sur le président de la République » et que moi-même, je prépare cette tentative, effectivement, je peux prophétiser puisque c'est moi qui vais la commettre. Donc, dans la Bible, s'il y a une prophétie, il faut que le prophète ne puisse pas participer, réaliser cette prophétie lui-même. Il faut que ce soit en dehors de tout pouvoir humain, de tout calcul. Alors, on va s'intéresser en premier lieu aux prophéties sur le Messie. Si vous avez visité l'Expo Bible avec nous, vous saurez que le message central de toute la Bible, qui fait que la Bible est un livre uni et unifié, c'est l'annonce d'un sauveur. Lorsque Dieu a créé le monde, selon la Genèse, il a créé un monde excellent, un monde magnifique, mais très vite, l'être humain s'est rebellé contre son Créateur, s'est révolté. Et c'est ce qu'on appelle dans la Bible la chute. À partir du moment où l'homme s'est révolté, il a été sous le jugement de Dieu, puisque Dieu est juste et saint. Mais ce qui est magnifique, c'est que tout de suite, Dieu a promis un sauveur. Il a dit « Tu as fauté, tu t'es révolté, mais j'enverrai un sauveur qui pourra permettre une réconciliation, un pardon de tes péchés. » Dès les premiers chapitres de la Bible. Et tout au long de la Bible, ce sauveur est annoncé, notamment à travers le peuple d'Israël. Pourquoi Israël est au centre de la Bible? Pourquoi ce sont les Israélites qui ont reçu la Torah, le témoignage de Dieu? Parce que Dieu a choisi dans sa grâce et dans sa souveraineté ce peuple qui, lorsqu'il a commencé, était le moindre de tous les peuples. Il aurait pu choisir le peuple égyptien, le peuple babylonien, le peuple sumérien. C'était des grandes civilisations. Non, il a choisi des nomades bergers. On ne pouvait pas faire plus petit. Mais il a choisi ce petit peuple pour porter son nom et montrer qu'il est le vrai Dieu, le Dieu de puissance et de gloire. Et à travers Israël devait naître le Messie qui allait sauver non seulement Israël, mais le monde entier. Parce que le plan de Dieu, c'est qu'à travers ce petit peuple, le monde soit béni. La naissance du Messie est prophétisée dans l'Ancienne Alliance. Donc avant que Jésus n'apparaisse, la naissance du Messie est prophétisée. Nous croyons ici, et je le crois, que le Messie, le Christ, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Alors il y a un certain nombre de personnes qui ne le croient pas, notamment parmi les Juifs orthodoxes. Ils disent non, nous attendons encore le Messie, ce n'est pas Jésus. Mais il y a quand même quelque chose à considérer qui est extraordinaire, c'est que la plupart des prophéties sur le Messie se sont accomplies en la personne de Jésus. Et c'est ça qui doit aussi pouvoir faire réfléchir une personne israélite, se dire, mais ce Jésus, il n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. Il a accompli un certain nombre de prophéties que nous allons voir maintenant. Par exemple, sa naissance, Michée, 400 ans avant Jésus-Christ, disait, il va naître à Bethléem Ephrata. Bethléem, c'était une bourgade, mais presque un hameau. Pourquoi le Messie naîtrait-il dans un hameau? Si on avait inventé l'histoire, on aurait dit, il va naître à Jérusalem, la capitale, il va naître, je ne sais pas, à Babylone. Non, Bethléem Ephrata. Or, Jésus est né à Bethléem Ephrata. D'une vierge, dit Ésaïe 700 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi le Messie devait-il naître d'une vierge? C'est un peu saugrenu, là encore. Mais parce qu'il devait être fils de Dieu. Il ne devait pas avoir de père humain. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Coran, qui ne croient pas que Jésus soit fils de Dieu, ils disent néanmoins partout que Jésus est fils de Marie, fils de Marie, fils de Marie. Or, au Moyen-Orient, vous n'êtes pas fils de votre mère. Vous êtes fils de votre père, dans votre généalogie. Pourquoi est-il appelé fils de Marie ? Parce qu'il a bien une mère humaine qui est Marie, mais il n'a pas de père humain. Il est né d'une vierge. C'est un miracle, ce n'est pas à moi de vous expliquer comment c'est possible, mais pour Dieu, tout est possible. Il fallait que Dieu s'incarne en la personne du Messie. Il sera appelé Dieu puissant, Père éternel, et Jésus, par ses œuvres, a manifesté la puissance de Dieu. Son nom, le nom Jésus, Yeshua en hébreu, signifie « Dieu sauve » ou « Dieu sauveur ». Donc dans son nom, il y a le nom de Dieu. Le Messie devait être hébreu de la tribu de Judas, selon le livre de la Genèse, et de la lignée du roi David, selon le psaume 89. Et effectivement, Jésus est de la tribu de Judas et de la lignée de David. Comme par hasard. Là encore, une généalogie ne peut pas se créer. Vous ne pouvez pas vous inventer une généalogie. Vous avez des traces et vous avez d'autres qui peuvent dire « Mais non, tu mens !» Et il y a quand même deux généalogies de Jésus dans les évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc. Pour les Juifs, la généalogie est essentielle. Pourquoi ? Parce qu'elle vous dit si vous êtes dans la lignée messianique ou pas. Et Jésus est dans la lignée du Messie. Il devait être annoncé par un précurseur, selon le prophète Malachie, 400 ans avant Jésus-Christ. Le Messie devait avoir un précurseur qui allait préparer le peuple et qui aurait l'esprit du prophète Élie. Or, le prophète Élie était quelqu'un qui vivait dans le désert avec des vêtements d'animaux et qui mangeait du miel et des sauterelles. Ça correspond exactement à la personne de Jean, qu'on appelle Jean le Baptiste, qui a été le précurseur de Jésus, qui a préparé le peuple à la venue de Jésus et qui vivait dans le désert comme Élie. Ici, vous avez l'église de la Nativité à Bethléem. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de personnes qui disent que Jésus n'a pas pu naître à Bethléem. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat en détail. Ils disent « Partout, Jésus est appelé Jésus de Nazareth ». C'est vrai, puisqu'il a vécu à Nazareth avec sa famille. Son père était charpentier à Nazareth. Moi, je suis né à Ajaccio. Est-ce qu'on dit Emmanuel Bozzi est d'Ajaccio ? Non, on dit Emmanuel Bozzi est de Montrouge, parce que j'habite Montrouge. Pourtant, je suis né à Ajaccio, j'ai passé un an là, c'est pas beaucoup, et Jésus a passé peut-être même moins d'un an à Bethléem. Et ce n'est pas parce qu'on dit Jésus de Nazareth qu'il n'est pas né à Bethléem. De plus, cette église-là a été construite vers le 4e siècle, mais elle a été construite sur une grotte. Or, tous les témoins depuis les premiers siècles de notre ère attestent que dans cette grotte est né Jésus. Voilà. On n'a pas d'autres traces archéologiques, il n'y a pas dans la grotte des preuves que Jésus est né là, bien sûr. Mais il y a des témoignages qui remontent bien avant la construction de cette église. Ici, vous avez Jean le Baptiste qui prêchait dans le désert. Beaucoup de gens des villes venaient l'écouter dans le désert et se repentir et être baptisés du baptême de Jean. Sa vie est annoncée dans l'Ancienne Alliance. Il est dit que l'Esprit de Dieu reposerait sur lui et qu'il annoncerait la justice aux nations. Dans la Bible, quand vous avez le mot « nation », ça veut dire les non-juifs, les gentils, on dit, hein, ou les goïms, comme disent les juifs. Eh bien, Jésus s'est adressé à Israël, mais s'est aussi adressé aux non-juifs à plusieurs reprises. Et puis, il ouvrira les yeux des aveugles, écrit Ésaïe encore, les oreilles des sourds, et il guérira les boiteux. Combien d'exemples dans les évangiles de guérison de ce genre par Jésus-Christ ? Encore une fois, guérir des gens, vous pouvez être rebouteux et soigner des petites douleurs, mais guérir un aveugle né, guérir un paralytique ou un sourd, particulièrement la surdité est très difficile, il faut avoir la puissance de Dieu. Il entrera triomphalement à Jérusalem assis sur un ânon, c'est ce que dit Zacharie 9:9. Pourquoi assis sur un ânon ? Parce que à cette époque au Moyen-Orient, le signe de la royauté était l'âne. Alors aujourd'hui, ça nous choque, on penserait que ce serait le cheval hein, ou le char. Mais ça, c'est notre imagination romaine. Mais chez les Juifs, le roi devait arriver sur un ânon. Mais l'ânon, c'est aussi quand même l'humilité. Un petit ânon, c'est humble, ça ne paye pas de mine, mais ça n'empêche que le roi est tout puissant. Et puis, il purifiera le temple, écrit Malachie, 400 ans avant Jésus-Christ, et Jésus a purifié le temple de ses vendeurs. Si vous connaissez un peu les évangiles, vous vous rappelez cet épisode. Il sera un homme de douleur plutôt méprisé, dit le prophète Ésaïe. Et ça, c'est étonnant parce que, admettons que le peuple juif ait inventé un sauveur, un messie. Ou admettons que les chrétiens aient inventé, les premiers juifs chrétiens aient inventé le messie. Ils ont fait de Jésus un personnage extraordinaire alors que Jésus était un simple charpentier. Hein, il y a beaucoup qui pensent ça. Mettez-vous à leur place. Vous êtes juif. Qu'est-ce que vous attendez comme messie? Vous attendez un messie qui règne, un messie glorieux, un messie qui délivre Israël des Romains, parce que les Juifs étaient sous l'Empire romain, esclaves. Et puis, voilà que Jésus n'est rien de tout cela. Jésus vient sur un ânon, il est un homme de douleur qu'on méprise. Même dans son village de Nazareth, hein, on dit, mais qui c'est celui-là? C'est bien le fils du charpentier. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous parle du royaume de Dieu, qu'il est le Messie. Est-ce qu'il est tombé sur la tête? On le traite de démoniaque. On le rejette et finalement on le crucifie comme un vulgaire brigand. On ne peut pas inventer ça. Un juif n'aurait jamais inventé un messie pareil. Ce n'est pas possible. Il aurait inventé un messie glorieux. Parce qu'il y a des prophéties sur le messie glorieux, mais elles ne sont pas encore accomplies. C'est lorsque Jésus va revenir. Mais là, ce messie douloureux et souffrant correspond bien au personnage de Jésus. Ici, pour illustrer... Vous avez Jésus guérissant un aveugle et Jésus rentrant à Jérusalem, hein, cette entrée triomphale où on a jeté des branches de palmiers, qu'on appelle le dimanche des rameaux. Eh bien, voilà, Jésus a accompli les prophéties des prophètes de l'Ancienne Alliance. Sa mort maintenant. Le psaume dit qu'il sera trahi par un ami, le Messie. C'est-à-dire un proche de lui va le trahir. Qui sera vendu pour 30 sicles d'argent, selon le prophète Zacharie. Et ça, 30 sicles d'argent, c'était le prix d'un esclave à cette époque-là. C'est un prix qui n'a pas beaucoup évolué pendant des siècles, d'ailleurs. Que ce soit chez les Perses, chez les Grecs, les Romains, et au temps de Jésus, c'était toujours 30 sicles d'argent, le prix d'un esclave, c'est-à-dire pas beaucoup. Qui serait percé et supplicié qu'on tirerait au sort sa tunique, qu'on l'injurierait, et que Dieu, pour un moment, l'abandonnerait. Tout ça, c'est dans le psaume de David, le psaume 22, écrit 1000 ans avant Jésus-Christ. Or, quand il dit qu'il sera percé et supplicié, ce qui est repris d'ailleurs par le prophète Zacharie, ils verront celui qu'ils ont percé. Hein, la crucifixion est beaucoup plus récente que ça. Elle date plus ou moins des Grecs. Les premières crucifixions sont chez les Grecs. Mais là, David, c'est bien avant que les Grecs ne deviennent un empire. À l'époque de David, on lapidait, on pendait, on tuait, mais on ne crucifiait pas les gens, on ne les perçait pas pour les tuer. Cette prophétie est donc particulièrement étonnante de voir, elle décrit, c'est David qui parle à la place du Messie et qui dit, hein, ils sont comme des loups, comme des chiens qui rôdent autour de moi, ça décrit exactement ce qui s'est passé lorsque Jésus était sur la croix. Il dit, il m'insulte, et puis il tire au sort ma tunique. C'est exactement ce qui s'est passé avec les soldats romains. On lui donnera du vinaigre, dit le psaume 69. On a donné du vinaigre à Jésus pour étancher sa soif. Il priera pour ses ennemis, n'est-ce pas la dernière parole de Jésus, hein? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il sera muet devant ses accusateurs, mis au nombre des malfaiteurs, et enterré dans le tombeau d'un riche. Exactement ce que Jésus a accompli à la lettre près, puisqu'il n'a pas répondu ni au Sanhédrin, au gouvernement juif, ni à Pilate. Ils ont dit, mais défends-toi. Si tu te défends, nous on est prêts à te libérer, on voit bien que tu n'es pas coupable. Et Jésus n'a rien répondu. Mis au nombre des malfaiteurs, c'était la crucifixion. Les Juifs lapidaient, ne crucifiaient pas. C'est les Romains qui crucifiaient et ils ne crucifiaient pas tout le monde. Ils crucifiaient les esclaves et les rebelles, hein, les révoltés et puis les pires criminels. Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs. Dans le tombeau d'un riche, effectivement, c'est Joseph d'Arimathée, dit l'Évangile, qui était un disciple de Jésus, qui a prêté son tombeau, si l'on peut dire, à Jésus pour qu'il soit placé pendant 3 jours. Or, Joseph d'Arimathée était un homme riche, effectivement. Je vous avais parlé hein, de détails, d'éléments saugrenus. Encore une fois, si j'invente une histoire d'un Messie qui meurt, pourquoi est-ce que je vais dire qu'il est mis au nombre des malfaiteurs et juste dans la même phrase dire « mais on met son tombeau avec le riche ». Sans plus de précision, c'est ça qui est étonnant. Ésaïe ne donne pas plus de précision, il dit « voilà ce qui va arriver ». Comme s'il avait vécu les événements à l'avance. Or, ils se sont accomplis 700 ans plus tard en la personne de Jésus. Alors ici, c'est sa mort, pardon, il y a une erreur sur la diapositive. Le Seigneur est crucifié avec trois mentions, hein, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, dans trois langues, le latin, l'araméen et le grec. Et puis les soldats qui tirent au sort sa tunique. Pourquoi tirent-ils au sort sa tunique? Parce que Jésus avait une tunique, n'avait que sa tunique, mais c'était une belle tunique. Et ils l'ont tirée au sort pour savoir quoi en faire. On crucifiait les gens en sous-vêtements. Hein. Ils avaient juste un sous-vêtement lorsqu'on les crucifiait, ce qui rajoutait à leur humiliation et à leur mort terrible. Sa résurrection, curieusement, la résurrection du Messie est prophétisée, mais c'est vrai moins clairement que sa mort dans l'Ancien Testament. Son corps n'aura pas le temps de se décomposer, dit le psaume 16 au sujet du Messie, hein, du fils de David, le Messie. Et puis, après sa mort, il prolongera ses jours et verra une postérité. Alors là, on pourrait interpréter simplement il aura des enfants, ou je ne sais pas, mais il prolongera ses jours après sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est qu'il continue à vivre après être mort ? Et c'est ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Il est mort, 3 jours dans le tombeau, son corps n'a pas eu le temps de se décomposer. Et 3 jours après, les témoins l'ont vu ressuscité, vivant, pendant plusieurs jours. Il s'assiera à la droite du Seigneur, dit le psaume 110, et il régnera sur les nations avec une verge de fer, ça c'est le futur. Il reviendra dans la gloire et Israël verra celui qui l'a percé et pleurera sur lui. C'est le prophète Zacharie qui dit ça. Et donc, ça veut dire que dans le futur, lorsque Jésus va revenir, un certain nombre de Juifs vont reconnaître le Seigneur. Ils vont dire, c'est notre Messie. Ils vont pleurer sur lui parce qu'ils l'ont participé hein, à sa crucifixion. Attention, la Bible ne dit pas que les Juifs sont coupables d'avoir tué Jésus, puisque sont les Romains d'abord qui l'ont crucifié. Mais la Bible dit que nous sommes tous coupables, quelque part, puisque Jésus est mort volontairement à notre place. Alors, la verge de fer, c'est une image pour un règne ferme, c'est-à-dire un règne où on ne peut pas dévier. Voilà. Et le règne du Messie futur est annoncé comme un règne où il ne pourra plus y avoir de révolte pendant son règne. Voilà. Il ne va tolérer aucune révolte. Aujourd'hui, si on s'en tient à la Bible, Dieu est toujours en train de régner, mais sur la terre, il y a un désordre complet. Pourquoi y a-t-il un désordre complet et beaucoup de mal sur la terre? La Bible répond plus ou moins indirectement à cela, mais elle dit que Dieu attend avant de juger le monde. Il attend que tous aient une chance de se repentir. Et c'est pour ça que dans ce moment merveilleux de patience de Dieu, nous pouvons nous repentir encore aujourd'hui. Mais d'autres peuvent continuer leurs crimes et leurs abominations. Mais lorsque le Messie reviendra, il jugera le monde entier. Et là, il n'y aura plus de crimes, plus de mal, parce que le règne sera autoritaire d'une certaine façon, mais contre les pécheurs. Ceux qui feront le bien et qui suivront le Seigneur seront bénis. Maintenant, j'aimerais passer à des prophéties sur Israël, la nation d'Israël. Il y a cet épisode avec le roi Ferdinand qui était un peu sceptique et il avait un serviteur, un ministre qui était chrétien, très ouvert et qui parlait de sa foi chrétienne. Alors il lui dit, bon, puisque tu veux à tout prix me parler de ta foi, donne-moi une preuve que Dieu existe. Alors bon, vous savez, c'est la question... bateau, alors il n'avait pas de preuve comme ça, mais il a dit, il y a une preuve, c'est le peuple juif. Drôle de réponse, n'est-ce pas? Et pourquoi a-t-il dit ça? Eh bien, on va le voir parce que sur le peuple d'Israël, il y a eu des prophéties extraordinaires, des accomplissements étonnants, parfois douloureux pour ce peuple, mais c'est bien le peuple sur qui Dieu a le regard. La déportation d'Israël était prophétisée déjà par Moïse, dans le livre du Deutéronome. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Alors là, c'est étonnant encore. Dieu appelle un peuple, le peuple juif. Il dit, vous allez aller dans un pays que je vous donne, où coule le lait et le miel, la terre d'Israël, le pays de Canaan, et je vais vous bénir. Mais tout en disant cela, il dit, mais si vous vous rebellez contre moi, je vous disperserai. Voilà. Et effectivement, ici, on voit une gravure des armées de Nebuchadnezzar qui attaquent Jérusalem et qui, en l'an 605 avant Jésus-Christ, ont dispersé le peuple juif partout à Babylone. Hein. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas morts sur le champ de bataille ont été déportés déjà en 605 avant Jésus-Christ, déportés à Babylone. Ce qui fait qu'à Jérusalem, il restait une poignée de femmes et de vieillards et la plupart des Israélites ont été dispersés dans le monde entier, déjà. Et c'est ça qui est étonnant avec le peuple juif, c'est qu'il trouve toujours le moyen de revenir sur sa terre, non pas avec ses propres forces, mais par la puissance et la grâce de Dieu. Le rassemblement d'Israël a aussi été annoncé, puisque Israël a été longtemps déporté. Dieu a dit aussi qu'il les ramènerait. Le prophète Jérémie a dit que la déportation sous Nebuchadnezzar, dont je viens de parler, allait durer 70 ans. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, c'est-à-dire dans le contexte, en Israël. Or, Cyrus, hein, dont on voit une gravure ici, le roi de Perse, a vaincu l'Empire babylonien et a ordonné le retour d'Israël en 538. Or, rappelez-vous, c'était en quelle date Nebuchadnezzar ? 605. Si vous retranchez 70 ans à 605, vous avez 535. Hein ? Or, c'est en 538, donc à 3 ans près, que la prophétie de Jérémie s'est accomplie. 70 ans seulement, vous serez dispersés et je vous ramènerai. Et c'est ce que Cyrus a fait. Cyrus, d'ailleurs, dont le nom même est annoncé dans la Bible, 150 ans avant la venue de ce roi de Perse, le prophète Ésaïe annonce la venue d'un roi païen qui délivrera Israël. « J'accomplis ce que prédisent mes envoyés, je dis de Jérusalem, elle sera habitée, je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem, elle sera rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » Et c'est effectivement étonnant, Cyrus, qui n'avait pas d'affection spéciale pour le peuple juif, pour lui c'était un peuple comme les autres, a été touché, on ne sait pas comment, et d'ailleurs l'histoire n'a aucune trace de cela, par ce peuple, ou par le Dieu de ce peuple, et il a ordonné que les Juifs soient renvoyés dans leur pays et que leur temple soit rebâti. Et ça c'est un fait historique par contre. On a les décrets de Cyrus, etc. Et pourquoi ? La seule raison que je vois, c'est parce que Dieu lui a demandé de le faire, bien que ce soit un roi païen, un roi qui n'était pas spécialement croyant au Dieu de la Bible, au Dieu d'Israël. Maintenant, il y a une autre destruction et une autre déportation, c'est celle qui a eu lieu en 70 de notre ère. C'est-à-dire, 40 ans après la mort de Jésus, il y a eu une révolte avec un certain Bar Korba. Bar Korba, c'est un juif qui prétendait être le Messie et qui a fomenté une révolte des juifs contre les Romains, contre l'envahisseur romain. Cette révolte a été non seulement écrasée dans le sang, mais les Romains ont décidé de tout écraser sur leur passage. Le général Tite, qui allait devenir plus tard l'empereur, le César Tite, a fait un siège autour de Jérusalem pendant des mois, au point que beaucoup sont morts de faim avant d'être tués autrement. Les historiens de l'époque disent que les femmes mangeaient leurs bébés qui venaient de mourir, tellement la famine et la soif touchaient les gens dans le siège. Et à ce moment-là, non seulement Jérusalem, mais le temple a été détruit, tout a été brûlé sur place. Et puis tous les juifs de la région, de la Judée, ont été massacrés jusqu'à la fameuse forteresse de Massada, dont vous avez peut-être entendu parler. Or, 600 ans avant les faits, le prophète Daniel a écrit « Après les 62 semaines, un messie, un oint sera retranché. J'avais parlé dans ma première conférence de cette prophétie qui annonçait la mort du Messie et quasiment sa date. Hein. Il n'aura pas de successeur, le Messie. Le peuple d'un chef qui viendra, le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire et le temple. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc déjà, il y avait une prophétie sur la destruction de Jérusalem et du temple. Jésus lui-même, 40 ans avant les faits, dans les évangiles, annonce qu'il viendra sur toi, Jérusalem, des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alors, j'aimerais m'arrêter juste un instant face à ces prophéties. Quand on est rationaliste, on n'accepte pas que c'est une prophétie et que ça vienne de Dieu. Quand on est rationaliste, on dit, c'est facile, ça a été écrit après les faits et on l'a mis dans la bouche de Jésus ou dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a retrouvé le livre de Daniel dans les manuscrits de la Mer Morte, écrit avant Jésus-Christ. Donc déjà, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est vrai que la prophétie de Daniel n'est pas d'une précision et d'une clarté extraordinaire quand même. Hein. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, c'est un peu vague peut-être. Mais Jésus est beaucoup plus précis. Il parle de trancher, d'être environné. Or, c'est exactement ce qui s'est passé à Jérusalem. Tite a fait des tranchées et un siège autour de Jérusalem pour les laisser, comme on dit, crever de faim. Voyant qu'ils n'arrivaient pas à rentrer parce qu'ils se défendaient furieusement, il a préféré les tuer par le siège. Alors, Luc a-t-il écrit plus tard ? A-t-on rajouté ça dans l'évangile de Luc ? Nous n'avons pas la preuve absolue de tout cela. Après, il y a une question de foi dans les évangiles. Mais néanmoins, si quelqu'un dit « ça a été écrit après », je lui demanderai d'apporter la preuve que ça a été écrit après. Est-ce qu'il y a une preuve que ça a été écrit après les événements ? Il n'y a aucune preuve de ça. On n'a pas retrouvé un évangile de Luc sans cette phrase, par exemple. Tous les évangiles de Luc qu'on a trouvés, tous les manuscrits anciens, ont cette prophétie. Et donc, les évangiles doivent être tenus pour, fiables. Parce que d'abord, ils sont quatre, ils vont dans le même sens, et aussi parce qu'ils sont anciens, et parce que personne, depuis l'Antiquité, depuis qu'ils existent, n'a contredit ces évangiles. Personne ne s'est opposé aux quatre évangiles. Il n'y a qu'au XIXe siècle qu'on a commencé à dire, avec notre esprit rationaliste qui est encore présent aujourd'hui, « Ah oui, mais ça n'existe pas, les prophéties, donc ils ont écrit après. » Mais on n'a aucune preuve qu'ils ont écrit après. C'est une affirmation de manque d'incrédulité. Mais les évangiles ont tous été écrits avant les faits. D'ailleurs, aucun évangile ne parle de cette destruction totale, surtout qu'il ne pourrait pas tellement en parler, vu que tout le monde a été tué là, dans cette destruction. C'est-à-dire les évangélistes qui étaient tous juifs, même Luc qui était romain, vivait avec des juifs, ils auraient été tous massacrés. Hein. S'ils ont pu écrire leurs évangiles et les répandre, c'est parce que c'était avant la destruction. Tous les évangiles parlent des faits avant l'an 70, puisqu'ils parlent de Jérusalem comme d'une ville tout à fait florissante et qui allait bien. Et puis, il y a une prophétie étonnante dans le prophète Osée qui dit « Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod et sans théraphim. » Hein, ce sont des objets du culte. Et depuis l'an 70, le peuple juif n'a plus ni roi, ni chef, hein, mis à part le premier ministre d'Israël, mais ce n'est pas le chef de tous les juifs du monde. Hein. Ils n'ont plus, surtout plus de temple. Lorsqu'ils font le Yom Kippour chaque année, normalement, le Yom Kippour a lieu dans le temple. On offre des animaux en sacrifice dans le temple. Ils ne font plus ça, ils n'ont plus de temple. Et cette prophétie est encore accomplie. La renaissance d'Israël était prophétisée. Ici, vous avez une image de l'Exodus, le bateau qui, en 1947, a tenté de ramener des Juifs en Israël. C'était un an avant qu'Israël soit déclaré nation aux yeux des autres, des Nations Unies, et c'était quand même un miracle. En 1945, il n'y avait presque plus de Juifs, ils avaient été massacrés par millions par les nazis. Non seulement ça, mais ça faisait 2000 ans qu'ils étaient dispersés dans le monde entier. Il y avait des juifs partout dans le monde, sauf en Israël. En Israël, il y avait une poignée de juifs, quelques centaines. Et d'un seul coup, juste après la guerre, voilà qu'il y a ce rassemblement, comme si on les avait tous poussés. Jérémie annonçait cela, presque 700 ans avant Jésus-Christ. « Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. » Je les ramènerai dans ce lieu et je les ferai habiter en sûreté. Il y a plein d'autres prophéties de ce genre, je n'en ai mis qu'une ici. Mais l'Éternel avait annoncé qu'il ramènerait son peuple. Il l'avait chassé dans sa colère, c'est-à-dire Israël avait été idolâtre pendant longtemps. Mais Dieu a dit, je vous ramènerai parce que j'aurai pitié de vous, je vous pardonnerai. D'ailleurs, l'idolâtrie en Israël a disparu, c'est-à-dire soit ils sont athées, ou agnostiques, soit ils sont croyants au Dieu unique, mais il n'y a plus de juifs qui adorent des idoles, des statues, comme ils le faisaient dans l'Antiquité. Parfois, ils avaient même des idoles dans le temple même de l'Éternel. Il y a une prophétie qui est particulièrement douloureuse et étonnante, c'est la prophétie des ossements desséchés dans le prophète Ézéchiel. Et elle dit ceci, « Fils de l'homme, ses os. » Alors, il y a une vision là, Ézéchiel qui prophétise a une vision devant lui, il voit des os desséchés. Ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Eh bien, ici vous avez une image du camp de Buchenwald. Ce n'est pas la pire des images, hein, mais elle est déjà parlante. Les os desséchés, hein, il y avait des monceaux de cadavres qui n'étaient plus que des os sur la peau sur les os. Et il y avait des gens qui survivaient avec la peau sur les os. Ces ossements desséchés de ce peuple martyrisé par millions est sorti une nouvelle nation en quelques années, entre 45 et 48, hein, il y a 3 ans. Et aujourd'hui, Israël est une nation développée comme si elle avait toujours été là. Ils ont même retrouvé la langue hébraïque. La langue hébraïque était une langue morte pendant longtemps. Aujourd'hui, à l'école, vous apprenez le grec ancien, c'est une langue morte. Mais l'hébreu n'est plus une langue morte, c'est une langue vivante, c'est quand même miraculeux, et c'est annoncé, prophétisé, et c'est unique avec le peuple juif. Il n'y a pas de peuple dispersé pendant tant d'années, massacré, déporté, autant, et il n'y a pas de peuple qui ait retrouvé sa terre à chaque fois, et sans qu'on puisse expliquer par quel miracle. C'est aussi une pierre pesante. Ici, vous avez une carte du Moyen-Orient. Dans le petit cercle noir, vous avez Israël, qui est tout petit, petit, petit. Et tout autour, vous avez des pays, hein, arabes ou Arabie Saoudite, Égypte, Soudan. Et on peut dire que 99% de ces pays sont des ennemis, veulent la destruction d'Israël. Le président iranien Ahmadinejad, quasiment à chaque discours, hein, chaque discours qu'il fait en public, il faut qu'il ait un mot sur Israël. Il dit qu'il faut anéantir ces Juifs. Beaucoup de pays arabes nient l'Holocauste. Ils disent que l'Holocauste est une invention des Juifs, ça n'a jamais existé. Un certain nombre de pays arabes, notamment le grand moufti de Jérusalem dans les années 40, a travaillé de pair avec Hitler. Il a reçu Hitler à Jérusalem. Et ils le trouvaient merveilleux. Ce sont des ennemis, pas simplement des ennemis héréditaires, mais des ennemis farouches qui veulent l'élimination des Juifs. Hein. Ils veulent les pousser à la mer, comme on dit. Et pourtant, il y a une prophétie qui dit « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. » Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et vous remarquez que très souvent Israël fait le centre de l'actualité. Ce tout petit pays de 20 000 km carrés, je ne sais pas si vous réalisez, 20 000 km carrés, fait le centre de l'actualité parce que c'est Israël. Ce n'est pas parce que c'est un pays difficile, c'est parce que c'est Israël, le peuple de Dieu et le pays de Dieu. Jérusalem est au centre d'une énorme querelle. Tout le monde veut s'approprier Jérusalem. Les Arabes, les Juifs, même les catholiques aimeraient faire de Jérusalem une capitale chrétienne. Et puis tous ceux qui soulèvent sont meurtris. On pense aux guerres, de la guerre du Kippour, la guerre des six jours. Lorsque les nations arabes ont cherché à attaquer les Israéliens, ils se sont dit on va les écraser, notamment avec l'aviation égyptienne et l'armée égyptienne qui était très, très vieille et très puissante. Et en fait, ce sont eux à chaque fois qui ont perdu toutes les guerres. Israël a gagné toutes les guerres. Et souvent, c'était des guerres défensives, hein, en réponse. Comment est-ce possible? Est-ce que les Juifs sont meilleurs que les autres? La Bible ne dit pas ça, mais elle dit que Dieu a fait des promesses sur son peuple et que rien ni personne ne pourra les empêcher. Néanmoins, vous avez remarqué la dernière phrase, toutes les nations s'assembleront contre ce pays. Et il y a un antisémitisme mondial qui est en train de recommencer. Ne croyez pas qu'avec les nazis, ça s'est éteint. Non. L'antisémitisme est toujours présent en racine chez les gens. Peut-être même à l'heure où je vous parle. Au fond de vous, vous dites, j'en ai assez qui me parlent des Juifs. J'en ai assez qui me parlent d'Israël. Ces Juifs, ils n'ont fait que des problèmes. Pourquoi ils ne parlent pas des chrétiens? Mais parce que Israël reste le peuple de Dieu. Et si vous avez cette haine contre le peuple juif, ce n'est pas une haine normale, c'est une haine diabolique. Parce que c'est le diable qui hait Israël et qui veut sa destruction. Mais Dieu veut bénir ce pays. Bien sûr, Dieu a châtié aussi beaucoup son peuple, Israël, parce que son peuple n'a pas obéi à ses commandements. Mais chaque fois qu'il y a une promesse, Dieu tiendra sa promesse envers ce tout petit pays de 20 000 km². Il y a des prophéties sur les nations tout à fait étonnantes. Les nations, je vous ai dit, ce sont les non-juifs. Notamment Daniel qui parle de 4 empires qui vont se succéder. J'aurais aimé qu'on m'apprenne ça à l'école parce que j'aurais beaucoup mieux compris l'Antiquité. La Bible, et notamment le prophète Daniel chapitre 2, nous explique que 4 empires vont se succéder. Bien sûr, c'était à son époque, des siècles avant Jésus-Christ. D'abord, l'Empire babylonien avec à sa tête le fameux roi Nebuchadnezzar, celui qui a fait les jardins suspendus de Babylone. À ce propos, les jardins suspendus, ce n'était pas des jardins avec des cordes suspendues par des cordes, c'est comme il vivait dans le désert, Babylone est dans le désert, c'est tout à fait plat et sec. Mais pour sa femme qui venait des montagnes, il a fait venir des tonnes de terre et il a fait des collines devant le palais. Et sur ces collines, il a planté des magnifiques jardins pour que sa femme puisse se promener dans les collines et se rappeler son pays. C'est touchant quand même, hein? Voilà l'histoire des jardins suspendus. Nebuchadnezzar, le plus grand empire qui ait jamais eu lieu. Il y a des vestiges de Babylone, d'abord en Irak, mais aussi au Louvre, et puis des vestiges de Ninive aussi, qui sont étonnants. Il y avait des colosses en pierre, la porte d'Ishtar aussi, qui est magnifique au British Museum. Après Babylone, ils sont vaincus, vous vous rappelez, par Cyrus, les Médo-Perses, c'est-à-dire les Mèdes et les Perses. C'était des peuples associés contre Babylone. Et puis les Médo-Perses ont perdu un jour aussi, contre un certain Alexandre le Grand. Il est parti d'un petit chapelet d'îles qu'on appelle les îles grecques. Vous savez, les îles grecques ne sont pas grand-chose. Encore aujourd'hui, la pauvre Grèce n'est pas une grande nation. Ils souffrent beaucoup. Mais c'est seulement avec Alexandre le Grand que les Grecs sont devenus un empire extraordinaire. Et il a conquis quasiment le monde, conquis avant lui. Et puis, après lui, l'Empire romain a succédé à l'Empire grec. Voilà donc les 4 empires. Certains disent, mais aujourd'hui, quel est l'Empire? Est-ce que c'est l'Amérique? Est-ce que c'est la Chine? Eh bien, en fait, on se rend compte que l'Empire romain est toujours là. L'Empire romain est toujours là et je vais en parler dans un instant. Babylone, dans le livre de Daniel, c'est le lion aux ailes d'aigle, selon le prophète Daniel. Or, effectivement, regardez, le lion aux ailes d'aigle, c'est le symbole de Babylone. La Grèce, c'est le dieu sur les léopards. Et c'est pour ça que dans le livre de Daniel, il parle d'un léopard en parlant de l'Empire grec. Or, à l'époque de Daniel, Alexandre n'était pas né. L'Empire grec n'existait pas. Mais il a dit il y a 4 bêtes qui vont venir sur la terre. Le lion aux ailes d'aigle, le léopard. Le léopard, c'était l'Empire grec avec Alexandre. En plus, Alexandre est connu comme un léopard parce que ses conquêtes étaient très rapides, plus que tout autre. Et l'aigle, Rome est symbolisée par l'aigle. Mais regardez que cet aigle a été emprunté par beaucoup d'autres après lui. L'aigle romain, en voilà un vestige, une statue d'aigle romain. L'aigle nazi, bon, on voit bien le rapprochement. L'aigle du Saint-Empire romain germanique, Charlemagne, avant ça. L'aigle napoléonien. Hein, il semble qu'il tourne la tête du même côté, sauf l'autre, mais c'est juste un détail. Pourquoi tous ces aigles? Parce que l'Empire romain a toujours été là. Charlemagne a voulu refonder l'Empire romain. Il appelait ça le Saint-Empire romain germanique, parce qu'il était germain. Napoléon a voulu refonder, il s'est couronné lui-même empereur. Pourquoi? Parce qu'empereur de l'Empire romain. Bien sûr, il a échoué, heureusement. Hitler, il était le chef du troisième Reich. Le Reich, c'est l'Empire, ou le Royaume plutôt. Hein. Mais encore une fois, Hitler se prenait pour un empereur et voulait refonder l'Empire romain et même l'étendre. C'est pour ça que tous ont pris des aigles. Et la Bible dit, et le prophète Daniel, dans sa prophétie qu'on ne peut pas voir mot par mot, annonce que ce quatrième empire, l'Empire romain, va aller jusqu'à la fin des temps et qu'il va avoir à sa tête un chef qui sera arrogant contre Dieu et que le Messie va rejeter. Ce chef, nous croyons que c'est l'Antéchrist. La Bible parle de l'Europe sans le nommer, puisque le nom Europe est un nom récent qui a été donné à l'Empire romain, en fait. Ici, vous avez une image des trois empires. Donc, oui, c'est marqué 4, mais en fait, c'est les trois premiers. L'Empire babylonien, l'Empire perse et l'Empire grec. Donc, c'est à peu près sur le même territoire, vous voyez, l'Europe du Sud. Alors, l'Empire romain, voilà, vers 70, et l'Union européenne. Alors, il y a des différences, c'est que l'Union européenne a les pays nordiques en plus, hein, et elle n'a pas encore l'Est, il lui manque l'Est, et puis le Maghreb. Mais pour le Maghreb, Nicolas Sarkozy a beaucoup travaillé pour faire l'Union du Maghreb, hein, l'Union, et pour associer l'Union européenne avec les pays du Maghreb. Et en fait, le but inavoué, d'une certaine façon, c'est de reconstituer l'Empire romain sous forme d'Union européenne. Alors ici, vous voyez Charlemagne, Napoléon, Hitler, et le futur, qui n'est pas là, qui sera l'Antéchrist, selon la Bible. Alors j'aimerais vous montrer aussi une prophétie d'Apocalypse 17. Dans l'Apocalypse 17, il est question, toujours avec l'Empire romain, d'une femme assise sur une bête. Et la bête, dans l'Apocalypse, c'est l'Antéchrist, c'est-à-dire ce dictateur mondial. Or, vous avez cette image de la déesse Europa, déesse grecque, assise sur une bête. On la retrouve sur les pièces de 2 euros grecques. Hein, seulement les pièces grecques ont cette image de la femme sur une bête. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une mythologie grecque sur la déesse Europa, que le taureau était un dieu et qu'il a emmené elle au loin. Hein, bon, ça, c'est toute la mythologie grecque. Mais c'est intéressant que l'Apocalypse parle d'une femme assise sur une bête et qui va amener une dictature mondiale. Également, dans l'Apocalypse, il est question que cette femme assise sur une bête s'appelle Babylone la Grande. Or, ce symbole a été repris par le Parlement de Strasbourg, par l'architecte du Parlement de Strasbourg. Ce n'est pas juste une manipulation que j'ai fait là. Hein. C'est que le Parlement de Strasbourg est une copie moderne de la tour de Babel de Bruegel. Hein. Alors la tour de Babel dans la Bible n'était pas comme ça, c'est Bruegel qui l'a inventée comme ça. Mais c'est pour dire que le Parlement de Strasbourg se veut une tour de Babel. Là où on parle toutes les langues, mais dans la Bible, la tour de Babel, quel était le but? Le but, c'était de s'opposer à Dieu, de s'unir entre êtres humains pour s'opposer à Dieu. Et quelque part, c'est ce qui est en train de se fomenter sans que ce soit consciemment avoué, bien que lorsque des députés européens ont voulu rappeler les racines chrétiennes de l'Europe, on les a rejetés aussitôt, on les a déboutés, il est dit pas question de donner la racine chrétienne à l'Union européenne. J'arrive à la fin, rassurez-vous. C'est un peu long parce que je vous dis, la Bible est pleine de prophéties. Et là, je n'ai fait que la surface, hein. Je n'ai fait que résumer. La fin des temps. Dans la deuxième épître à Timothée, écrite par l'apôtre Paul, un jeune pasteur d'Éphèse, donc dans les premiers siècles de notre ère, au premier siècle de notre ère, il y a une prophétie sur la fin du, la fin des âges, la fin des temps, et sur la nature morale des gens. Il fait toute une liste, il dit « Les temps seront difficiles et les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, cruels, irreligieux, etc. » Il y a toute une liste. Et ce qui est intéressant, c'est que notre société occidentale est particulièrement concernée là, par cette liste. L'égoïsme, l'individualisme, hein, chacun pour soi. L'amour de l'argent, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui fait tourner le monde ? L'amour de l'argent. Le monde est gouverné par la finance mondiale. C'est eux qui dirigent. Les présidents n'ont pas beaucoup de voix au chapitre. C'est la finance mondiale, les banques qui dirigent. Hein. L'amour de l'argent. Pourquoi il y a des trafics de drogue ? Pour l'argent. Pourquoi il y a des trafics d'êtres humains avec les prostituées ? Pour l'amour de l'argent. Pourquoi il y a des crimes ? Pour l'argent. La cruauté. Alors, il y a eu de tout temps de la cruauté. Hein. Là, ce n'est pas particulièrement notre époque, même il y a eu pire que nous, certainement. Mais ce qui est frappant avec notre société, c'est qu'on est soi-disant évolué. C'est-à-dire, il est passé 2000 ans de christianisme, les droits de l'homme, tous ces discours humanistes, maintenant, c'est fini, nous ne sommes plus des barbares, n'est-ce pas, du temps passé. On n'est plus des barbares, mais on se comporte toujours pareil. C'est-à-dire, il y a autant de barbarie et de cruauté en Occident qu'ailleurs et qu'à toutes les époques. Hein. Il faut voir comment, je pense, à ces jeunes de Bagneux hein, qui avaient torturé à mort ce jeune juif. Bon, cet exemple est particulièrement frappant parce qu'il était juif, d'ailleurs. Il le torturait jour et nuit avec des cigarettes, en l'affamant, en le frappant jusqu'à ce qu'il le laisse pour mort. Et quand on les interroge, ils disent bon, ils n'ont pas de raison particulière. Il y a plein de faits divers dans notre ville de Paris. Ces deux jeunes de 15 ans qui ont quasiment tué un homme à coups de marteau sur la tête pour lui voler 20 euros. Et quand on leur demande « Mais pourquoi vous avez fait ça ? Vous ne vous rendez pas compte ? Vous avez failli, vous avez presque tué. » Et ben, on voulait être sûr qu'il nous donne son portefeuille, alors on a bien tapé fort. C'est-à-dire il n'y a même plus de conscience là. Les policiers sont effarés devant les jeunes qui leur arrivent à partir de 14-15 ans, qui n'ont plus aucun remords. Ils peuvent voler, tuer, massacrer, torturer. Pour eux, simplement, ce qu'il faut, c'est de ne pas se faire prendre. Et c'est quand même frappant dans notre société dite humaniste et évoluée. L'irreligion, alors ça, c'est nouveau quand même. L'athéisme est quelque chose d'assez nouveau parce que dans toute l'Antiquité et dans toute l'histoire, tout le monde était plus ou moins religieux. Alors, il y avait les polythéistes, les monothéistes, mais tout le monde était religieux. Mais le fait d'être totalement athée rationaliste, c'est quelque chose qui a commencé au siècle des Lumières, hein, au XVIIIe siècle, et qui est assez nouveau. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis mon propre Dieu. Il n'y a pas que cette liste, mais cette liste, quand même, est frappante sur la décadence morale vers la fin du monde. La mondialisation, et ça c'est dans l'Apocalypse, où il est dit qu'il fut donné au faux prophète d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image soient tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, et ce nombre est 666. Et là, pour que cette prophétie s'accomplisse, il faut deux éléments qui n'ont eu lieu qu'à notre époque. C'est pouvoir animer une image qui parle. Depuis quand peut-on animer une image qui parle ? C'est la télévision. Et qu'elle soit vue de tous. Hein. Qu'elle soit vue de tous. Bien sûr, on pouvait faire des marionnettes. Hein. Les Chinois avaient des marionnettes depuis très longtemps. Mais là, la télévision vraiment colle parfaitement. Et Internet. Et puis, l'idée que tous ne puissent ni acheter ni vendre sans avoir une marque. Alors là, ça correspond à la monnaie électronique hein, et aux cartes de crédit, aux chèques, etc. Si vous n'avez pas un compte en banque, c'est très compliqué de vivre. Si vous n'êtes pas dans le système de la mondialisation, c'est très compliqué de vivre. Il y a des gens qui essaient de revenir au troc, hein, à notre époque, même dans notre, en France. Mais il faut dire, ils sont une poignée et ils vivent en communauté assez fermée, forcément. Mais ce qui est frappant, c'est que la Bible annonce que vers la fin des temps, il va y avoir quelqu'un qui va exiger une marque pour pouvoir acheter ou vendre. Ceux qui ne veulent pas porter la marque seront excommuniés de la société et même mis à mort. Or, cela est possible aujourd'hui avec la surveillance et également les micro-puces. Vous savez qu'on utilise de plus en plus les puces électroniques pour acheter ou vendre. Bientôt, elles seront dans les smartphones, hein, puisqu'il y a les puces NFC qui vont permettre de passer au magasin devant le laser. Vous mettez votre téléphone devant le laser et ça débite votre compte en banque. Hein. C'est en expérimentation à Nice et bien sûr aux États-Unis depuis un moment. Bientôt, on aura une puce qui permettra de tout faire. Avec votre puce, vous pourrez prendre le métro, acheter votre baguette, payer vos factures, acheter sur Internet, aller chez le médecin avec la carte vitale. Il y a une puce sur la carte vitale. Il y a des puces partout. Hein ? Je ne sais pas si vous aimez les puces, mais ça gratte. Mais un jour, et les ingénieurs en parlent déjà, on va essayer d'unifier toutes ces puces. Vous avez combien de cartes à puces dans votre portefeuille ? Hein ? Vous en avez peut-être plusieurs. Et puis on peut les perdre, et puis ça s'abîme, etc. Pourquoi ne pas avoir une seule puce qui concentre tout ? Et encore mieux, pourquoi ne pas avoir cette puce sur soi, c'est-à-dire implantée ? Hein ? Alors ici, j'ai une photo. Voilà, la puce faite par la société VeriChip. Hein. Donc vous voyez qu'elle n'est pas grande et qu'elle s'implante facilement. Elle est déjà utilisée dans les animaux pour retrouver votre animal. Elle est utilisée à certaines boîtes de nuit en Espagne pour vous repérer, c'est-à-dire vous faites implanter la puce avec une aiguille, hein, et bien sûr vous êtes volontaire, et vous pouvez rentrer tous les soirs, votre compte est débité automatiquement et vous avez le droit de rentrer parce que vous avez votre puce qui sonne avec un portique. Ça, c'est expérimenté en Espagne. Hein. Et c'est vrai que c'est formidable parce que ça ne se perd plus. Le mieux, c'est de l'avoir dans la main ou dans le bras. Et puis, vous avez plein d'appareils qui vous repèrent. Et puis, tic. Et puis les publicitaires qui sont toujours à l'affût et qui vont s'inspirer du film de Steven Spielberg. Comment ça s'appelle sur ces trois êtres qui donnent les crimes à l'avance. Voilà le Minority Report. Où, avec votre puce, les panneaux publicitaires vont vous reconnaître. Ça, on y est bientôt, là. On va bientôt y avoir droit. Ça va se faire avec les téléphones. C'est-à-dire, ils vont dire « Bonjour, monsieur Bozzi ». Et ils savent ce que j'aime parce que j'ai fait mes achats sur Internet. Ils m'ont repéré sur Internet. Ils sachent que j'aime l'informatique et la Bible. Ils vont me dire « Oh, il y a une nouvelle Bible pour vous et le panneau va m'afficher une publicité pour moi ». Ah, ça, les publicitaires, c'est leur rêve, hein, je vais vous dire. Pour eux, c'est le nirvana, le paradis, hein, de pouvoir cibler chaque client comme ça dans la rue, n'importe où, dans le métro. Mais on va être fiché, repéré partout. Et cette technologie qui peut avoir des avantages, qu'on trouve merveilleuse, va être utilisée par un dictateur dont parle l'Apocalypse. Ce dictateur exigera cette marque et cette puce et il exigera qu'on l'adore en même temps. Il y aura une histoire spirituelle avec ça. Parce que ce ne sera pas n'importe quel dictateur, ce sera un homme qui prétendra avoir résolu tous les problèmes et apporté la paix. C'est ce que chaque dictateur a fait. Hitler, comment est-il arrivé au pouvoir ? Par la force ? Pas tout de suite. Il a commencé par être élu. Et comment a-t-il été élu ? Il a redonné la fierté aux Allemands. Il a dit, on s'est fait battre, hein, mais je vais vous redonner la fierté, moi je vais prendre les choses en main. Et les Allemands ont dit, c'est merveilleux, voilà, c'est notre Messie. Hein. Les chrétiens allemands l'ont pris pour un Messie. Et après, quand il était au pouvoir, il a tout verrouillé, et là, il a révélé son vrai visage. C'est ce que fera l'Antéchrist selon la Bible, hein, et il exigera qu'on l'adore et qu'on reçoive une marque. Seuls ceux qui suivent le Seigneur Jésus vont s'opposer à cela, ou pratiquement. Il y aura peut-être quelques personnes qui sont anti-mondialisation, qui vont dire « moi, je ne veux pas de marque », mais on va vous menacer de mort. Hein. Donc là, il ne va plus rester beaucoup d'opposants. Ici, vous avez une image hein, de l'argent qui devient électronique. Les billets vont disparaître, les pièces vont disparaître. tout va devenir électronique dans le futur. Ça veut dire que tout sera manipulable et surtout tout sera contrôlable. La police peut savoir où vous êtes avec votre téléphone, puisque votre téléphone fait réagir des bornes. On peut vous traquer, les caméras vidéo sont partout dans les villes. Heureusement, parce que ça permet d'arrêter et d'élucider beaucoup de crimes, aujourd'hui. Mais demain, un dictateur pourra s'en servir pour que personne ne lui échappe. Et c'est ça qui est terrible, c'est que c'est fait pour notre bien et notre sécurité. Mais ça va être retourné contre nous. La Bible n'annonce pas des temps merveilleux dans le futur, avant la venue de Jésus-Christ. Elle annonce au contraire le jugement de Dieu à travers ce dictateur, à travers des fléaux terribles. La terre commence à souffrir de secousses terribles, de fléaux, mais ce n'est rien comparé à ce que l'Apocalypse annonce. Tout cela doit aujourd'hui nous avertir et on doit se dire, non pas vivre dans la crainte et construire un abri anti-atomique, à Paris c'est quand même compliqué, mais on doit au contraire aller vers le Seigneur, vers Dieu, parce qu'il a promis de garder ceux qui lui font confiance. Et que ceux qui lui croient en lui, qui le suivent, seraient épargnés des jugements. Parce que Jésus-Christ est venu nous épargner les jugements. Il est venu nous sauver. Il est le sauveur. Yeshua, Yahvé, sauve. C'est ça le nom, la signification de son nom. Je termine par cette note spirituelle. Là, j'ai été beaucoup dans le texte biblique. Mais si vous vous demandez où va le monde, sachez que la Bible l'a dit depuis longtemps. Et la Bible ne s'est jamais trompée. Elle vous dit que le monde ne va pas aller mieux. Quel que soit le président en 2012, quels que soient les événements futurs, ça ne va pas aller mieux. Par contre, vous pouvez aller mieux. Vous pouvez vous repentir devant Dieu, être sauvé et avoir la vie éternelle et avoir une vie transformée. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais athée jusqu'à l'âge de 20 ans. Anticlérical, anti-Dieu, je croyais ni au diable ni à Dieu. Je ne croyais qu'à ce que je voyais. Mais je me posais néanmoins des questions sur la vérité, sur la bonté, l'amour, le vrai, le faux, le bien, le mal. Et je me disais, est-ce qu'il y a une réponse quelque part? Est-ce que quelqu'un va me répondre? Et c'est en lisant la Bible par hasard, par mon prof de philo qui était juif, que j'ai redécouvert la Bible, et les évangiles notamment, qui parlaient de ce Jésus. J'avais entendu parler de Jésus dans mon enfance catholique, mais c'était un Jésus, je dois dire, un peu déformé, comparé à ce qu'il est dans les évangiles. Et j'ai vu le Jésus de la Bible, et j'ai dit, je veux suivre cet homme, je pense qu'il a les réponses. Et j'ai rencontré des chrétiens, et ils ont continué à m'annoncer la Bible, et je suis devenu chrétien volontairement à l'âge de 20 ans. Je me suis tourné vers Dieu, je lui ai demandé pardon pour toute ma rébellion, tous mes péchés, mon égoïsme, mon orgueil, mes mensonges, mes impuretés, tout cela je lui ai déposé et j'ai cru que Jésus me sauvait. Et le Seigneur m'a sauvé, m'a pardonné, je le sais, j'en suis certain, parce qu'il a promis et parce que aussi je suis dans la joie depuis. J'ai eu des épreuves, mais il y a une joie profonde, une certitude, une assurance. J'appartiens au Seigneur, je suis un pécheur racheté, je ne vaux pas mieux que quiconque. Mais le Seigneur m'a gracié et il ouvre cette porte à tous. Il offre ce don du salut à chacun. C'est à nous de répondre ou non. Dieu a fait le premier pas en la personne de Jésus, à nous de tendre la main ou de lui retirer notre main. Ça va décider notre éternité, attention. Ça décide de notre éternité. Je termine ici ma conférence. Si vous avez des questions précises ou des remarques, peut-être des contradictions, on peut en parler à part. Je me tiens à votre disposition. Je ne prête